Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Voilà, donc l'émission s'appelle Regarde ailleurs. L'idée, c'est vraiment de faire des rencontres radiophoniques à travers ce micro pour donner la parole à des gens que je rencontre. Ça peut être des réalisateurs, des écrivains, des voyageurs, des expatriés, des gens qui voyagent en France. Je t'ai rencontré il y a pas longtemps dans une soirée et j'ai entendu parler du Japon et j'ai compris que t'avais passé plusieurs années là-bas, je crois 12 ou 13 ans. Jean Freund, voilà, donc on s'est rencontrés dans cette soirée et tu me parlais de bouquins, d'éditions, de vie au Japon avec ta famille. Tes enfants, je crois même, sont nés là-bas. Donc voilà, l'idée, c'est quand même un pays qui est assez fascinant, le Japon. Mais je trouve qu'il y a un accueil très positif quand on parle du Japon. Souvent, il y a des étoiles dans les yeux des gens qui s'illuminent en face de nous. Je crois que c'est vraiment un pays qui a peut-être façonné l'imaginaire, peut-être de nos générations, parce qu'on a quand même né avec une PlayStation, une Game Boy, une Nintendo, un Walkman Sony, tous ces trucs-là. Enfin, je sais pas ce qui fait que les gens sont fascinés autant par ce pays. Et peut-être, on va revenir sur ton parcours et ton itinéraire à toi. Donc, peut-être Jean, dis-nous, reviens sur il y a longtemps et peut-être qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu choisisses de quitter l'Alsace, parce que je crois que tu es alsacien, tu es originaire d'ici. En tout cas, avec un nom pareil, tu dois être dans le coin.
Avec un nom pareil, je dois venir un peu d'Allemagne, un peu de France, mais surtout d'Alsace. Et alors, pourquoi j'ai fait du japonais ? À la base, moi, j'ai parlé le français et l'alsacien à la maison. Donc, j'ai toujours aimé les langues et j'ai toujours aimé dessiner. Mon grand-père était artiste. Ce n'était pas son boulot, mais il était artiste, il dessinait. Et j'ai toujours eu un don pour le dessin et ça a toujours été un plaisir pour moi de dessiner comme ça, pour le fun. Et en arrivant en seconde, j'ai eu le choix d'apprendre une nouvelle langue et c'était le japonais. Je l'ai fait... Comment dire, c'était un peu pour tester quelque chose de nouveau, mais ce qui m'attirait au départ, c'est que le japonais, c'est de la langue et du dessin pour moi. Donc c'est une langue qui n'a rien à voir avec le français, l'anglais ou quoi que ce soit. Et en même temps, il y a du dessin, parce qu'on a des idéogrammes, c'est quelque chose de très exotique. On peut demander à n'importe quelle personne, quand il voit du japonais, il va dire « pour moi, c'est du chinois ». Enfin, ça montre vraiment que c'est quelque chose d'exotique qu'on ne comprend pas. Et donc ça m'intéressait. Et j'ai commencé le japonais vraiment comme ça pour voir un peu ce que c'était, sans intérêt très profond. Par contre, quand je suis arrivé en première, donc un an après avoir commencé, au lycée Bartholdi à Colmar, on nous a proposé de partir au Japon. Donc pendant plusieurs mois, on a fait des actions pour économiser de l'argent. En Alsace, il y a énormément d'entreprises japonaises qui sont implantées dans les années 80 et qui ont réussi justement à subventionner notre voyage pour partir au Japon. On est donc parti pendant 2 semaines. On a fait du homestay, donc on était dans des familles d'accueil pendant à peu près 3-4 jours. Et puis le reste du temps, on était dans des hôtels avec une classe. On était à Tokyo, on était à Kyoto, Osaka, partout. Et là, j'en ai pris vraiment plein la face. Je passe 2 semaines là-bas entre mégalopole, temple, nature japonaise, etc. Et donc, je me rends compte que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et comme je disais, je parlais déjà à la base l'allemand, alors pas couramment, mais j'avais quand même de bonnes bases en allemand, le français, l'anglais. Et je me dis, mais tiens, le japonais, en fait, c'est hyper intéressant. Il faut que j'apprenne cette langue, comme ça, je pourrais communiquer avec les gens. Parce que quand j'étais dans la famille d'accueil, j'arrivais à balbutier quelques mots, j'écrivais quelques petits trucs comme ça, mais c'était pas suffisant. Je savais que j'avais envie de faire quelque chose. Et donc à la fin de ce voyage, peut-être quand on est rentré en France juste après, je me suis dit, bon, je vais me donner 10 ans, mais dans 10 ans, il faut que je sois bilingue en japonais. J'ai envie de parler couramment japonais et de savoir l'écrire et de maîtriser cette langue. Et voilà, c'est juste un objectif que je me fixe. Donc on revient en France, donc fin de la première, j'arrive en terminale, et là je me mets à apprendre le japonais tout seul. Enfin, je continue les cours au lycée, mais dans mon temps libre, je fais des kanji, des hiragana, des katakana, et donc j'essaye de maîtriser la langue japonaise. Et j'y vais à donf. Fin de la terminale, enfin cours en terminale, il faut décider ce qu'on va faire de son avenir, hein, ce qui n'est pas évident... qu'on a envie de faire du japonais ou autre chose, c'est jamais facile à cet âge-là. Et donc, je dis à mes parents, voilà, moi, je veux faire une fac de japonais. Et donc, fac de japonais, mais tu vas faire quoi avec ça? Je sais pas. Je sais pas, mais je vais faire une fac de japonais. Donc, ma mère m'a dit, mais fais peut-être du commerce, fais peut-être quelque chose, en gros, qui va te donner un travail, quoi. Et je dis, non, écoute, je veux faire du japonais. Et voilà. Et donc, je pars à Strasbourg et je me mets à étudier le japonais à l'université, donc exclusivement du japonais. Ça veut dire langue japonaise, culture japonaise, histoire du Japon. Grosso modo, c'est ça.
Et mais là, c'est toujours la langue qui t'appelle vers cette culture, ou est-ce que tu développes une passion autre que celle de la langue? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça nourrit en toi? Déjà, est-ce que c'était ton premier voyage vraiment à l'étranger, comme ça, à 16 ou 17 ans? Qu'est-ce qui explique cette fascination? Qu'est-ce qui explique aussi cette envie de continuer à apprendre le japonais? Ça aurait pu être l'anglais, ça aurait pu être, je ne sais pas, n'importe quelle langue.
Ouais, c'est vrai. Non, en fait, j'ai pas mal voyagé avec mes parents quand j'étais gamin. Alors, soit je voyageais avec eux, donc mon père avait un vieux camping-car, un van Fiat, qui ressemble à un van Volkswagen, qu'il avait plus ou moins retapé. Et on faisait les pays de l'Est en van pendant un mois. On allait en Autriche avec son van, on allait dans toute la France avec le van. Donc on avait déjà cette idée du voyage. Mon père et ma mère avaient déjà fait de la moto quand ils étaient jeunes. Ils partaient en Algérie en moto, au Maroc, etc., tout ce que tu veux. Et quand j'étais gamin, ils m'envoyaient aussi, je me rappelle, j'étais parti en Angleterre une ou deux fois. Ils m'envoyaient tout seul chez des amis à eux. J'étais parti aux États-Unis chez des amis aussi à eux pour aller apprendre l'anglais. Donc j'avais déjà cette envie de voyage, cette expérience du voyage, ce n'était pas nouveau. Et j'avais l'habitude aussi de voyager seul. Et pendant pas mal de temps, ben, j'étais fils unique jusqu'à 7 ans, j'étais fils unique. Donc j'avais l'habitude aussi de m'occuper tout seul. Et donc moi, pour moi, voyager tout seul, faire des choses seul, ça ne me dérangeait absolument pas. Et donc le japonais, si j'ai décidé d'en faire, ouais, je pense qu'il y avait cet attrait pour la langue et pour le pays en même temps. Parce que je savais qu'avec la langue, j'allais découvrir plus du pays. Et si je savais parler la langue, ça allait forcément me pousser à retourner au Japon. Donc je savais que si je me motivais à aller à la fac, à un moment ou un autre, je retournerais étudier au Japon et j'irais travailler au Japon. Et du coup, grâce à la langue, eh ben, je m'intégrerais plus dans la société japonaise et je comprendrais mieux la culture. Et donc c'est ce qui m'a poussé à aller à la fac et faire que du japonais. Et donc j'en ai fait pendant 3 ans, j'ai eu ma licence, et à l'issue de la licence, j'ai pu partir à l'université Seijo, qui est à Tokyo, et là, j'ai pu faire un step-up en japonais. J'ai pu découvrir la culture japonaise plus en profondeur, je suis resté 1 an là-bas, donc voilà, j'étais comblé, quoi. Le japonais, je parle mieux en japonais, je rencontre les japonais, je suis à Tokyo, je vis ma best life, quoi. Quel âge j'avais ? C'était en 2005, donc j'avais 21 ans. Quelque chose comme ça, et j'étais super content.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
C'est rare d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Avant de continuer donc sur effectivement ton parcours plutôt professionnel, là, hein, c'est sur ça que tu es en train de nous emmener, en étant au Japon, il y a aussi quelque chose d'assez fascinant, c'est qu'on est un gaijin, un étranger, et souvent, juste le fait d'être blanc, d'être étranger, permet aussi d'ouvrir beaucoup de portes. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, à ce moment-là, le fait de vivre au Japon, de parler la langue, de savoir lire la langue, et d'être gaijin?
Oui, alors gaijin... veut dire donc personne de l'extérieur, étranger tout simplement. Alors être gaijin, c'est à la fois gratifiant et ça peut être énervant aussi. Alors gratifiant dans le sens où effectivement tout le monde est japonais ou asiatique, il y a quelques chinois aussi, mais enfin il y a beaucoup de japonais au Japon, on imagine bien. Et quand on arrive comme ça, on est blanc, on est étranger, on nous voit tout de suite, on est quelqu'un de fascinant. Donc rien que le fait d'être là, d'être sur place, ça nous confère un statut. Ton statut, c'est être gaijin, c'est être quelqu'un d'étranger. Et donc, on est à 10 000 km de la France, on est à l'autre bout du monde. Les gens vous voient et disent « Waouh, t'es un gaijin ». Il y en a même qui m'ont déjà dit « Moi aussi, j'aimerais être gaijin ». C'est simple, tu vas en France et puis c'est bon, c'est réglé. Et du coup, ça ouvre des portes. Ça arrive en fait assez rapidement. Les gens déjà sont très sympathiques, sont très curieux. Ils vont pas être offensants. Alors ils peuvent avoir des propos qui ici en France pourraient paraître racistes ou xénophobes, mais en fait pour eux c'est très gentil, c'est très curieux, c'est très bienveillant. Mais il y a des types, ils te rencontrent un soir dans un bar, tu bois un coup avec eux. Oh, vous êtes Gaijin. Oh mais c'est super. Viens, on va faire du karaoké, on chante un petit coup. Et après le mec, attends, écoute, demain on va manger avec ma femme, on va manger des sushis. Viens, je t'invite. Le gars, je le connais absolument pas, mais le lendemain, je suis avec lui dans un super restaurant, il a commandé un plat de sushi gigantesque, et il dit, écoute, tu vas donner des cours d'anglais ou de français à mon fils, etc., écoute, c'est super. Et donc pour lui, ça lui donne une... Je suis un espèce de faire-valoir, quoi. Il a rencontré un gars de l'étranger.
Qui en plus parle sa langue, parce que des gaijin, il y en a quelques-uns qui voyagent là-bas, mais toi, non seulement tu es un gars de l'étranger qui parle leur langue, parce que c'est pas forcément évident de communiquer avec les Japonais en anglais.
Non, c'est vrai. Alors, déjà, il y a ça. Il y a le fait de visuellement, je suis un gaijin. Mais après, quand on parle la langue, tout de suite, ça amène à autre chose. Pour eux, c'est un waouh. Faut savoir que les Japonais sont pas très bons en langue. Donc, quand on va leur sortir deux mots en japonais, on va dire konnichiwa, au genki desu ka, ce qui veut dire bonjour, comment allez-vous? Oh, c'est dingue! Ah, oh, mais vous parlez trop bien! Et donc, on dit, oui, mais enfin, je t'ai juste dit bonjour, comment ça va? Ça s'arrête là. Ah, oh, non, c'est dingue. Et donc, au début, c'est sympa. Au début, c'est sympa parce qu'on se dit, ouais, c'est vrai que je parle bien japonais. Ouais, Et puis, au bout de. Donc, moi, je suis resté une douzaine d'années au Japon. Au bout d'un moment, au bout de 12 ans, quand à peine on a dit konnichiwa au genki desu ka et qu'on dit, oh, c'est super ce que vous faites! On se dit, bon, écoute, je suis là depuis 12 ans quand même. Ça devient un peu agaçant, mais au début, c'est très flatteur. Mais du coup, ouais, effectivement, la langue, ça, le fait de pouvoir le parler, ça apporte plein de choses. Après, j'ai envie de dire que c'est normal. Enfin, moi, j'allais au Japon, c'était normal que je parle la langue. Je me suis occupé plein de trucs administratifs pour la naissance de mes gamins ou quoi que ce soit. Ça paraissait normal pour moi de lire en japonais, d'écrire en japonais, de parler en japonais avec les médecins, avec l'administration, etc. Mais voilà, c'est quelque chose de normal. Mais c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a plein de Français ou d'expatriés au Japon qui soit ne parlent pas du tout japonais, soit parlent japonais mais ne savent pas l'écrire. Moi j'avais la chance de, enfin la chance, j'ai fait l'effort de savoir maîtriser les deux. Et c'est bien parce que ça t'ouvre tout un pan. En fait, tu as vraiment l'impression de faire partie de la société quand on te demande de remplir un acte de naissance, de remplir tes impôts, tout ça en japonais. Je me dis, tiens, Ouais, moi je suis japonais. C'est un peu ça ce que quelque part au fond de toi tu te dis, je suis japonais parce que je fais tout en japonais. Mais par contre, il y a toujours quelqu'un pour te rappeler
que t'es
un gaijin. On va quand même te rappeler que, oui, non, mais attendez, vous n'êtes pas japonais. Ça se voit sur votre visage. Toi, tu l'oublies que t'es pas japonais parce que je veux dire, moi je me vois pas, j'ai pas un miroir sur moi tout le temps. Donc c'est assez bizarre. Et de moment, tu te dis, ouais, moi je suis japonais, je parle en japonais avec tout le monde. Je suis intégré dans mon quartier, je fais mes impôts en japonais et tout. Mais on te le rappelle quand même.
Mais c'est ça qui est aussi intéressant, parce que du coup, là, on découvre ce que c'est qu'être un étranger dans un pays qui n'est pas le sien. Ou des fois, moi, je me rappelle aussi, bah, pareil, hein, je baragouinais un petit peu, mais sans même ouvrir la bouche, en arrivant dans certains magasins, les gens disaient « I don't speak English », et ils partaient. Tu vois, mais c'est bon, je peux te parler en japonais.
Ouais, ça, c'est assez drôle. C'est vrai que les gens, parfois, enfin, au Japon, t'as l'impression que les oreilles et les yeux sont déconnectés. Tu leur parles en japonais, mais ils te voient et disent, non, c'est pas possible. Non, c'est pas lui qui parle, c'est quelqu'un d'autre qui parle. Et parfois c'est drôle, parfois c'est très agaçant. Tu vas parler à un mec en japonais, il va te répondre dans un anglais pourri. On va parler japonais là, monsieur. Là, c'est. Mais c'est des situations parfois un petit peu cocasses, quoi. Mais il y a des moments où ça m'énervait vraiment. Et puis au bout d'un moment, j'ai réussi à passer outre. J'ai mis de côté tout ce côté vous êtes un gaijin, vous êtes un étranger, machin, où on te rappelle forcément que tu viens pas d'ici, etc. Non, bon, écoute, allez.
Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est juste le fait d'être étranger, il y a un double effet qui se coule. Hein. Tu disais au début, il y a un côté très valorisant, où effectivement les choses sont faciles parce qu'on t'invite dans un sushi bar, parce qu'on t'invite à la maison, les portes s'ouvrent, t'es l'étranger, t'as une plus-value, t'as une mascotte en fait, quelque part. Et à un moment donné, t'as juste envie d'être comme tout le monde, et ça c'est juste pas possible, parce que tu seras toujours dans un nouveau réseau que tu ne connais pas, l'étranger, et tu peux jamais te fondre dans la masse. Donc ce statut est vraiment deux tranchants.
Ouais. Ouais, tu peux jamais te fondre dans la masse. Et puis parfois, ça peut être vexant. Donc moi, j'ai bossé dans une multinationale au Japon, dans l'industrie. Donc je bossais pour une multinationale française, mais je bossais que avec des Japonais. Et il y a des fois, mes vendeurs. Donc moi, j'étais dans le marketing et je gérais des vendeurs. Et les vendeurs me disaient, ah Jean, écoute, il faut absolument que tu viennes chez ce client. Parce que je lui ai dit que tu allais venir. Donc là, il a prévu toutes ses équipes, ils vont venir t'écouter. Il y a 30 personnes qui vont t'écouter, il faut que tu viennes. Et donc j'arrive sur le truc, ok, qu'est-ce que je vais faire? Et là, le responsable du magasin, le distributeur, ah oh, bonjour monsieur le Gaijin, oh, c'est super, écoutez, il y a plein de monde, dites bonjour, tout le monde, dites bonjour, il va parler. Ça fait ça. Et donc je leur dis quelques mots en japonais, oh, il parle. Et t'as l'impression qu'à un moment, ils vont dire, et il fait même des pirouettes. Regardez ce qu'il sait faire. Et donc là, c'est des moments qui, au fond de moi, j'ai trouvé ça très vexant parce que j'étais vraiment l'attraction, le phénomène de foire. Mais en même temps, voilà, je dis, bon, bah, c'est la culture, c'est comme ça, tu dois l'accepter. Et puis en plus, c'était pour le boulot, donc bon, j'allais pas non plus, j'allais pas faire chier. Mais voilà, il y a des fois, c'est très vexant. Et il y a des fois, c'est très valorisant, parce que ça montre quand même que tu parles japonais. On remarque quand même que t'es pas un type qui sait rien.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Alors je sais que le Japon a été aussi beaucoup médiatisé, ou en tout cas il y a des films, je me rappelle de Lost in Translation, ou les bouquins aussi d'Amélie Nothomb, Stupeur et Tremblement, où on découvre un peu le Japon dans la vie professionnelle. Donc j'aimerais bien que tu nous parles de ça, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, ou qu'est-ce que tu as expérimenté dans le monde professionnel du Japon. On entend beaucoup parler d'inégalité entre les hommes et les femmes, ou cette dévotion qu'on peut avoir pour l'entreprise, où le japonais travaille énormément pour sa compagnie, est complètement dévoué à la cause. Donc peut-être nous emmener un petit peu dans cet univers professionnel au Japon, et en comparaison avec ce qu'on vit ici en France.
Au Japon, effectivement, donc je bossais que avec des Japonais, et il y a des choses. Alors déjà, le côté vestimentaire. Quoi qu'on fasse, même si on est dans une petite boîte, souvent c'est costard-cravate, quasiment toujours. D'ailleurs au Japon, à part à l'université, c'est toujours en uniforme. Donc moi je suis arrivé dans cette multinationale, costard-cravate. Je déteste le costard et la cravate, mais j'étais obligé d'en mettre. Ensuite il y a cette notion de groupe qu'on retrouve partout dans la culture japonaise, mais qu'on retrouve forcément dans l'entreprise. La notion de groupe, ça veut dire... déjà l'information circule pour tout le monde, donc quand il y a un mail, il n'est pas juste pour une personne, il est partagé avec tout le monde pour que tout le monde soit au courant de cette information. Ensuite, ça veut dire que si on fait une activité de groupe avec l'entreprise, on va y aller. T'as bossé toute la journée, le soir ton manager te dit bon écoute, on va aller boire un coup maintenant, on va continuer la réunion autour d'un verre, tu peux pas dire non, tu y vas parce que tu respectes ton aîné, mais tout le groupe y va et on va y aller. Et ça va picoler, et ça va manger, machin, ça va finir à pas d'heure, tu vas être complètement pété. Et le lendemain matin, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de RTT, il n'y a pas d'arrêt maladie du quoi. Tu es au boulot à 8h du mat.
Et tu peux pas dire non à ça, tu peux pas te soustraire à cet after work pour aller boire des coups dans un bar.
Alors, c'est très mal vu, parce que là, c'est un autre pan de la culture japonaise, c'est ce qu'on appelle le joge kanke, c'est le lien hiérarchique, donc du haut vers le bas. Donc on respecte toujours ses aînés, quoi qu'on fasse. Quand on veut devenir maître sushi, on respecte son aîné. Quand on est dans l'entreprise, on respecte son aîné. Quand on est à l'université, on respecte ses aînés. Et les aînés ont toujours raison, et les subordonnés sont toujours soumis. Donc j'ai vu ça, que ce soit à l'université ou dans le monde de l'entreprise, des mecs se faire martyriser, psychologiquement ou physiquement, par des aînés, parce que c'était les aînés, et parce qu'il fallait qu'ils montrent que c'était eux les aînés. À l'université, c'est des types qui étaient bizutés, à se foutre à poil, à faire « vas-y, fais ce que je te demande ». Et c'est drôle parce que j'ai retrouvé exactement la même chose dans le monde de l'entreprise, où des mecs, ça arrivait qu'on les demande de se mettre à poil et faire des conneries, et il y en a, on leur disait, on les forçait à boire. Je me rappelle, un type rentrait dans notre boîte. On avait fait une... On est allé au restaurant tous ensemble. On savait tous qu'ils ne supportaient pas l'alcool. Mais comme c'était un nouveau, ils l'ont forcé à boire. Il faut savoir qu'au Japon, on boit énormément. Les problèmes de santé publique sur le foie, ça n'existe pas. Ça boit, ça boit, ça boit. Il a dit, je ne sais pas boire. Oh, la foutre ! On est tes aînés, tu bois. Il a bu. Après, ils l'ont forcé à faire un speech où ils l'ont engueulé parce qu'il n'était pas assez digne, il n'était pas assez sobre pour faire son speech, alors qu'il l'avait forcé à picoler. Et ça paraissait tout à fait normal.
Il y a une forme de violence, en fait, là-dedans.
Il y a une forme de violence. C'est horrible. Ce type-là donc, a continué. Il était le dernier venu dans la boîte, mais il était au même niveau que les autres vendeurs, hein, si on veut. Mais il y avait un autre vendeur qui était le meilleur des vendeurs, Yamada-san, qui, parfois, parce qu'il en avait envie, disait « Bon, maintenant, toi, viens, on va aller boire un coup. Alors, je t'invite, ok, mais tu vas faire ce que je te dis. » Et donc, il l'emmenait picoler au restaurant, et il le forçait à aller dans des bars, etc. Le mec ne supportait pas l'alcool, il détestait ça. Et le lendemain, il fallait qu'il aille au travail. Il en souffrait énormément et on ne pouvait rien y faire. Tout le monde était au courant, mais c'était la norme.
C'est étonnant, aujourd'hui on parle beaucoup de consentement, donc c'est quelque chose qui là-bas au Japon, le consentement, ça n'a pas l'air d'être un des concepts très développés au sein de la société.
Non, le consentement, pas du tout, parce qu'au final... Alors, je pense que la jeune génération commence un petit peu à changer, à essayer de... Oui, ils deviennent apparemment un petit peu plus individualistes, mais de manière générale, c'est quand même le groupe qui est important, et donc c'est pour ça qu'on a le groupe et cette relation hiérarchique. Il faut toujours respecter ce que les autres disent, donc surtout les aînés. Et moi j'avais vraiment beaucoup de peine pour ce type-là qui a fini par démissionner à un moment parce que c'était trop douloureux pour lui. Mais ça se passait comme ça. C'était on pouvait rien y faire. Après tu parlais de la place des femmes. Donc dans notre équipe il y avait aussi des femmes. Et il y avait toujours cette espèce de séparation. Donc on faisait souvent des team building, des choses comme ça, ou des activités de groupe. Et je me rappelle que les femmes étaient toujours un petit peu infantilisées, ou alors, je ne sais pas s'il s'agissait de faire un événement ou quoi, celles qui allaient préparer le thé, c'était les femmes. D'ailleurs, quand j'allais chez des clients... Et que donc on rencontrait le boss ou le responsable, on s'asseyait, voilà, machin. Qu'est-ce que vous voulez boire, un thé, un café? Eh bien, c'était toujours une femme qui venait nous servir le thé ou le café, systématiquement. Et il y a des nanas, c'est leur boulot de servir le thé. Et ça ne choquait absolument personne. Je parlais des team building, je me rappelle, on a fait une fois du baseball. Et donc là, on dit, bon, le baseball est un sport au Japon qui est, c'est un peu le foot chez nous, hein, tout le monde en fait. Et donc, on va faire du baseball, ouais, ok, excellent. Ah, mais comment on va faire pour les femmes? Comment ça, comment? C'est quand même une batte. Est-ce qu'on leur donne un ballon de foot pour taper dans la batte? Ou est-ce qu'on prend une raquette de tennis pour être sûr qu'elles arrivent à taper dedans? Parce que c'est des femmes, quand même. Et donc, bonne question. Alors, on tourne, réunion autour de ça. Et donc, moi, j'étais un peu offusqué. Je me dis, on va pas leur donner une raquette de tennis, quoi. Enfin, elles essayent, puis si elles arrivent pas, c'est pas grave. Enfin, c'est le jeu, non? Je sais pas. Et donc, je dis, les femmes, je leur en parle. Je dis, ils veulent te mettre une raquette de tennis. C'est quand même abusé, non? Elle me dit, non, j'espère que j'aurai une raquette de tennis parce que sinon, je n'y arriverai jamais. Ouais, et donc, ça veut dire qu'en fait, ça, c'est juste un exemple, mais il y avait plein de choses comme ça où, au final, pour moi, ça paraissait être abusif, inégalitaire, et pour elle, au contraire, non. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne.
Ah, donc c'est vraiment culturel, quoi. C'est un système de pensée, de croyance qui fonctionne comme ça. Donc le côté machiste, finalement, la société est acceptée par les femmes aussi bien que par les hommes. Ou plutôt par les hommes et aussi bien que par les femmes.
C'est vraiment accepté. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Et du coup, c'est drôle parce que parfois, moi, je leur expliquais justement, je faisais le parallèle avec la France en disant, voilà, les femmes sont comme ça... Ça se passe pas du tout comme ça. Si tu fais ça, ça sera mal vu, etc. Et... Oh, ah bon ? Ah !
Mais t'as aussi toute cette partie de la population japonaise qui a envie de s'émanciper de tout ça et donc qui commence à venir vivre à l'étranger, aux États-Unis ou en France. Il y a beaucoup de japonaises. Il y a plus de femmes, j'ai l'impression d'ailleurs, japonaises qui vivent en France que d'hommes, non ?
C'est possible, alors les statistiques, je ne sais pas. Mais je sais qu'effectivement, il y a des... J'ai rencontré plusieurs Japonais ou Japonaises qui préféraient être à l'étranger, alors pour le moins en Occident, parce que justement, elles pouvaient se détacher de cette notion de groupe où justement, il ne faut pas faire de vagues, où justement, il faut... L'idée n'est pas d'avoir... En fait, le fait de vivre à l'étranger, pour elles, ça leur permettait d'avoir leur propre personnalité, de s'affirmer. Je parlais de la notion du groupe avant, et alors qu'on soit un homme ou une femme, mais dans le groupe japonais, il faut essayer de ne pas faire de vagues, il faut essayer de ne pas sortir du lot, il faut... parce que si toi, t'es un créatif, tu fais des trucs vachement intéressants, alors que tout le reste n'est pas intéressant du tout, et ils sont chiants au travail, machin, on va te critiquer, on va dire « Ah, mais toi, t'es pas comme tout le monde, hein. Toi, tu sors du lot, ça va pas. Calme-toi, rentre dans le rang. » Et donc, il y a plein de gens qui justement arrivent à s'émanciper de ça en vivant à l'étranger.
Ouais, parce que pour quelqu'un d'un peu anticonformiste, c'est compliqué de s'adapter à une société ou à ce moule du conformisme si toi tu as envie de sortir des cases.
Ouais, non, c'est super compliqué. Et en fait, il y a des gens qui sortent de ce moule. Alors, si on parle du travail, ce qui prévaut au Japon ou ce qui a prévalu pendant longtemps, c'était l'emploi à vie. Donc tu rentrais après tes études universitaires et tu faisais le même boulot jusqu'à la fin, un peu comme nos parents avaient peut-être. Mais tu ne changeais pas de travail. Et il y a des jeunes qui, pour s'émanciper de cet environnement du travail, ont choisi de devenir ce qu'on appelle « frita ». Donc ça vient de « free », d'être quelqu'un de libre. Alors je ne sais pas comment on dit en français, mais un peu comme intérimaire peut-être ou freelance. C'est-à-dire que tu vas bosser pendant peut-être 2 mois ou 1 an pour une boîte, pour un job, et puis après tu vas t'arrêter, peut-être pendant 3 mois. Et puis après tu vas reprendre un boulot pendant 2 mois, et puis après tu vas t'arrêter. Et en gros, tu vas un peu vivre la vie comme tu l'entends, mais du coup tu n'es plus considéré comme quelqu'un qui a son emploi à vie, qui bosse dans une grande entreprise avec son costard-cravate, etc. Et il y a des gens ouais, qui s'émancipent comme ça. Ou après, il y en a d'autres qui pètent des plombs et qui vont poignarder des gens dans la rue. Enfin, on connaît les événements qui arrivent au Japon où il ne se passe rien du tout, il n'y a aucun crime, parce que c'est un pays où il y a vraiment zéro criminalité. Et puis d'un coup, il y a un gars qui pète un plomb, qui va découper la tête de je ne sais pas qui et qui va la planter sur un pieu. Enfin, voilà. Je pense que c'est des gens qui intériorisent énormément leur souffrance, qui prennent sur eux et qui ne laissent rien sortir. Et puis au moment où ça sort, ça pète.
Avec des phénomènes sociaux un peu rigolos, je repense à, comment on les appelait, les hikikomori, c'est ça, hein, ceux qui restent enfermés chez eux, qui ne sortent pas, qui vivent quasiment dans le noir.
Ouais, alors les hikikomori, alors là, ouais, c'est un peu l'extrême, mais c'est vrai que c'est des jeunes, souvent, ou des jeunes adultes qui vivent chez eux et qui ne sortent plus. Alors très souvent, ils sont sur Internet, sur des jeux vidéo, dans un monde parallèle, enfin... Je ne connais pas très bien ce phénomène, mais je sais que ça marchait comme ça. Et le gamin est entretenu par ses parents. La maman va déposer peut-être le plateau repas devant la porte. Il va le prendre, mais il ne va plus sortir. Il va complètement se renfermer dans son univers à lui. Et ouais, c'est triste. Après, est-ce que c'est la société qui crée ces hikikomori ? Je ne sais pas. Mais ouais, effectivement, c'est des phénomènes qu'on voit au Japon et qui sont assez flippants.
Est-ce que tu retourneras au Japon? Et si oui, pour y faire quoi?
Ouais, je pense que je vais y retourner. Alors, pour y faire quoi, je ne sais pas encore. Moi, j'ai la résidence permanente. Donc, ça veut dire que je peux y... Si je retourne au Japon demain, je peux y vivre, je peux travailler. J'ai un visa qui dure ad vitam aeternam. Donc, si j'y retourne, si j'y retournais, ce serait peut-être d'abord pour voyager, pour me remettre un petit peu dans le bain, revoir mes potes, reprendre un petit peu mes marques. Est-ce que j'y retournerais pour y vivre? Si c'était le cas, je pense que j'irais avec mes enfants, déjà. Mais il faudrait que j'ai un projet quand même concret. J'aurais peur de faire du réchauffé, en fait. Essayer de revivre ce que j'ai vécu avant. C'est pas un truc qui me branche tant que ça. Si c'est pour essayer de refaire la même chose qu'avant, et forcément de ne pas y arriver parce qu'on peut pas revivre ce qui est déjà passé, ça risque d'être un petit peu amer. Donc y retourner, oui. Combien de temps? Je sais pas. À quel moment, je ne sais pas non plus. Mais non, j'y retournerai, c'est sûr. Et puis, voilà, j'ai ça dans le sang quand même. Hein. L'expérience, je ne l'oublie pas. Donc forcément, il se passe quelque chose. Et si j'arrive pas à y retourner, je sais qu'en France, j'ai quand même mes contacts japonais, j'ai mes amis japonais, j'ai quand même l'occasion de parler japonais régulièrement. Donc voilà, je le perds pas.
Jean, merci.
Je t'en prie. Sayonara.
Arigato gozaimasu.
Doita shimasu.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.